auditeurs, bonjour, bienvenue à ce nouveau Libre Journal, le Libre Journal d'Hux Sérapion. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission, émission préenregistrée, mais vos messages seront toujours les bienvenus. L'Afrique, continent de tous les espoirs mais aussi de toutes les difficultés, l'Afrique continue de faire partie de l'histoire de France. Au-delà de la colonisation, de la décolonisation, des liens personnels ou étatiques entre la France et les différents pays africains, il faut maintenant nous projeter dans le futur. Mais il n'y a pas de futur possible sans connaissance et compréhension du passé. Pour nous aider à comprendre l'Afrique et les Africains, et comprendre aussi les relations entre la France et les pays africains, j'ai demandé à Robert Bourgi de bien vouloir s'exprimer à nouveau à mon micro. Robert Bourgi, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Bienvenue à ce micro. Vous êtes un très fin connaisseur de l'Afrique, mais également de la vie politique française. Je vous avais déjà reçu il y a 2 ans autour de votre ouvrage « Ils savent que je sais tout » aux éditions Max Milo. Et merci à nouveau d'avoir accepté de venir une nouvelle fois à mon micro pour parler de votre parcours et aussi de l'Afrique et de la France et de la vie politique française. Alors Robert Bourgi, peut-être pour nos auditeurs, pouvez-vous retracer le riche parcours que vous avez eu en France et en Afrique?
Je vous remercie, monsieur, de m'avoir convié de nouveau dans votre studio, dont j'apprécie le site et l'intervieweur, le journaliste. J'ai 81 ans. Les âmes charitables me disent que je ne fais pas mon âge. Je fais semblant de les croire. Je suis né à Dakar le 4 avril 1945, jour de l'indépendance du Sénégal par la suite. Et je suis partagé entre 3 civilisations. La sénégalaise, la première, la libanaise, mes parents sont d'origine libanaise, et la française. Mais je suis très fier d'être français et d'avoir été élevé à la manière française. Et je défends toujours les couleurs de notre drapeau. J'ai fait mes études secondaires, primaire, secondaire, un peu de supérieur à Dakar. Je les ai poursuivis à Nice et j'ai terminé à Paris, à la Sorbonne, où j'ai soutenu ma thèse de doctorat d'État en sciences politiques sur le thème suivant, le général de Gaulle et l'Afrique noire, 1940-1969. Et j'ai le bonheur de dire qu'elle a été couronnée et ma thèse a reçu l'imprimature. Elle est publiée à la LGDJ, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, et couronnement suprême, elle est à la Bibliothèque Nationale pour l'éternité. Très tôt, le pouvoir politique français s'est intéressé à moi. J'ai fait mes classes aux côtés de Jacques Foccart, l'immense monsieur Afrique du général de Gaulle, de Monsieur Pompidou et ensuite de Jacques Chirac. Et par la suite, après l'avoir rencontré pour la première fois en novembre 1976 dans un petit bureau qu'il avait place du Palais Bourbon, après qu'il eut quitté le président Giscard d'Estaing, avoir fondé le parti, le RPR, j'ai rencontré Monsieur Chirac à la demande de Monsieur Foccart qui était présent. Et, comment vous dire, le courant était passé entre nous. Et nous avons commencé à échanger la correspondance. Entre-temps, je suis allé en Afrique, au titre de la coopération française. J'ai servi à Cotonou, à la faculté de droit du Bénin, pendant 4 ans. Après le Bénin, je suis allé à Nouakchott, où j'étais prof à l'École nationale d'administration pendant 2 ans. Et ensuite, je suis allé en Côte d'Ivoire, où j'étais prof à la fac de droit à partir de 1979. Et c'est là qu'a commencé véritablement ma carrière politique africaine. Pourquoi ? Parce que en 81, 79, 80, 81, j'ai retrouvé M. Chirac à la mairie de Paris. Et Jacques Chirac s'est intéressé à moi. Et en 1980, pour le centenaire de Brazzaville, il m'avait invité à l'accompagner à Brazzaville. Il y avait à côté de lui Pierre Messmer, qui fut le gouverneur de l'AEF, avec, en poste à Brazzaville. Et dans l'avion, il me présente à Pierre Messmer, l'immense Pierre Messmer. Il lui dit, Pierre, je vous présente Robert Bourgi, qui est de mes amis. Et Pierre Messmer m'interroge. C'est important que je cite ce fait. Il me dit, mais quand j'étais gouverneur général de l'AOF, en poste à Dakar, avant que le général de Gaulle m'appelle au gouvernement comme ministre des armées, j'ai connu un Bourgi libanais, Mahmoud Bourgi. Nous sommes en 80. Et les faits dont parle Pierre Messmer se déroulent en 58-59. Je lui dis, c'était mon pauvre père. Ah, il dit, vous savez, Jacques, quel personnage c'était le monsieur Bourgi, père. Un ami du général de Gaulle, un ami de monsieur Focard. Et là, Jacques Chirac l'a interrompu, lui a dit, vous savez, j'ai su tout ça, j'ai appris tout cela par monsieur Focard. Et Robert est dans la lignée directe de son père. Et arrive 1981, je me trouve à Abidjan comme prof, et Jacques Chirac, à la surprise générale de la communauté française qui s'élevait à plus de 100 000 personnes, Jacques Chirac me nomme son mandataire pour l'élection présidentielle de 1981 face à Giscard d'Estaing et Mitterrand. Surprise, il m'a nommé mandataire, c'est moi qui signais pour lui. Et les gens m'ont découvert, petit prof à la fac de droit qui devient le mandataire de Jacques Chirac, et c'est là que j'ai commencé mon ascension politique. Il m'a nommé ensuite chargé de mission du RPR pour toutes les relations avec les pays d'Afrique au sud du Sahara, c'est énorme, toutes les futures républiques. Ensuite, il m'a nommé délégué national des clubs 89, c'était le club de réflexion de Jacques Chirac, délégué national pour tous les pays en développement. Et un jour, après la défaite de Jacques Chirac en 81, il me fait venir à son bureau à la mairie de Paris, était présent Jacques Focard, et il me dit, je vais vous charger d'une mission absolument confidentiel, Robert. Je suis maire de Paris, j'ai à côté de moi Jacques Focard, qui pour moi a une référence absolue, ayant servi le général et M. Pompidou. Il disait toujours M. Pompidou. Je souhaiterais que vous soyez, pour moi, le relais auprès des chefs d'État africains pour les sensibiliser à mon action politique. Moi, je le regarde, je lui dis, mais les sensibiliser comment, monsieur le maire? Je ne l'ai jamais appelé monsieur le Premier ministre. Il me dit, vous savez, là, la vie politique a besoin d'argent. Et Jacques Focard m'a dit combien votre papa avait été présent lorsqu'il fallait soutenir le RPF du général de Gaulle et ensuite la suite du parcours avant l'accession du général. Le retour du général en mai 58. Je lui dis, il n'y a pas de problème, monsieur le maire. Il me dit, vous le ferez auprès de moi, dans le secret de tous. Personne ne doit savoir que vous faites cela pour moi. Seul sera au courant Jacques Focard. Je lui dis, il n'y a pas de problème, monsieur le maire. C'est ce que je fis en Côte d'Ivoire, d'abord auprès de la communauté libanaise, ce qui a irrité pas mal de gens du RPR, et auprès des autorités politiques ivoirienne. Et par la suite, il a élargi mon domaine de compétences. Je l'ai fait auprès de tous les autres chefs d'État africains. Cela d'autant plus qu'en mars 1986 débute la première cohabitation. Il me fit nommer conseiller politique du ministre de la Coopération Michel Aurillac, qui fut à mes yeux, aujourd'hui je peux le dire, qui fut à mes yeux le meilleur ministre de la Coopération que la France ait eu depuis 1980. Et Michel Aurillac s'en est allé, hélas, il y a quelques années, mais il fut le meilleur ministre de la Coopération. Michel Aurillac ignorait tout de ce que je faisais pour Jacques Chirac, Premier ministre. Là, j'ai contribué au financement, via les chefs d'État africains, au financement de sa campagne présidentielle de 88. Ensuite, ayant été battu, il se replie sur la mairie de Paris, tout en continuant le combat au niveau des législatives. Et là, j'ai continué à faire ce que je faisais depuis quelques années. À la différence près qu'à partir de 1988, je n'ai fait qu'accompagner les émissaires des chefs d'État africains. Et la rumeur, qui est mauvaise conseillère, qui produit des effets nuisibles, la rumeur a fait de moi un porteur de valise. Je n'ai jamais porté de valise. J'ai toujours
accompagné... Vous avez accompagné des porteurs de valises.
J'ai accompagné les porteurs de valises, les émissaires africains, les chefs d'État. Et ensuite, j'ai été proche de lui quand il est devenu président de la République. Il s'en est allé. Arrive Nicolas Sarkozy en 2007. J'ai été très proche de lui sur le plan politique. Et je tiens à dire ceci, que j'ai toujours dit, urbi et orbi, jamais Nicolas Sarkozy n'a sollicité le moindre sou venant des républiques africaines, de ce continent noir. Vous voyez, jamais. Il m'avait dit en 2007, lorsque je l'ai rejoint, en 2005, lorsque je l'ai rejoint, il m'a dit « Je ne veux pas un sou venant des pays africains, Robert ». Je lui ai dit, il n'y a pas de problème, Nicolas, il n'y aura pas un sou. Il n'y a jamais eu un sou venant des républiques africaines par mon intermédiaire, ce que je faisais pour Jacques Chirac. Voilà. Et depuis, j'ai noué des relations politiques avec tous les chefs d'État africains. Les seuls que vous voyez, ou vous soyez comme vous le voulez, c'était Oufouette Boigny et Omar Bongo Ndimba, que j'appelais papa et il m'appelait fiston. Ce sont les seuls que je vous voyais. Autrement, j'ai tutoyé tous les chefs d'État africains, ce que je fais encore aujourd'hui.
Robert Bourgi, merci de ce rappel, je pense nécessaire pour bien faire comprendre aux auditeurs. Je rappelle qu'ils sont à l'écoute de Radio Courtoisie et que j'ai le plaisir de recevoir Robert Bourgi pour évoquer finalement l'histoire de la France et du monde. Robert Bourgi, si je comprends bien, dans votre explication, il y a une continuité parfaite entre ce qui se faisait du temps du RPF, du temps du général de Gaulle, dans le cadre des relations avec les pays africains et dans le cadre du financement des campagnes présidentielles du général de Gaulle, avec ce qui s'est fait après, avec ce qui est devenu les héritiers du gaullisme, héritiers plus ou moins proches, mais en tout cas les héritiers politiques, à savoir notamment le RPR, etc. Est-ce à dire que finalement, on n'a pas de raison de s'offusquer de ces méthodes avant les lois sur le financement des partis politiques, sachant que De Gaulle, que tout le monde met sur un piédestal, à mon avis à juste titre, a finalement utilisé exactement les mêmes méthodes. Ou n'ai-je pas compris quelque chose ?
Non, le général De Gaulle, je voudrais faire cette mise au point. Je le tiens de Jacques Faucard et je le voyais agir. J'étais gamin, mais après 58, j'avais grandi, j'avais poussé, je parlais à M. Faucard à Paris. Le général de Gaulle disait qu'il n'était au courant de rien. Et on faisait en sorte qu'il ne soit au courant de rien. comme il disait qu'il est, il savait pas que l'armée s'agitait en Algérie pour le mettre au pouvoir. Il a dit qu'il n'était au courant de rien. Mais tout le monde connaît les complots du 13 mai, voyez. Ça s'est su par la suite. Il était au courant, mais on disait qu'il n'était pas au courant. Mais le général de Gaulle, quand même, il ne fallait pas être de la Cour des comptes, il ne fallait pas être Einstein. Et il venait...
Pour se demander d'où venait l'argent.
Voilà. Son parti se mourait, un parti créé en 1947, son parti se mourait, il a été vivant, disons, jusqu'en 1951, ensuite il a été mis en veilleuse, mais il continue à vivre. Mais d'où vient cet immeuble du 5 rue de Solferino, là où se trouve l'Institut Charles de Gaulle? C'était là que se trouvait le bureau du général de Gaulle. Comment fait-on pour acheter un immeuble de plusieurs étages au 5 rue de Solferino? Je pose la question à n'importe qui. C'est que il y avait de l'argent qui venait d'ailleurs. Et le pauvre militant du RPF n'allait pas contribuer jusqu'à pouvoir permettre au RPF d'acheter, au général de Gaulle, d'acheter un immeuble. C'était M. Pompidou qui s'occupait de tout cela. L'immense M. Pompidou. Mais à travers une société qui s'appelait Lille Saint-Germain. Lille, la ville de Lille, la ville natale du général, Lille Saint-Germain. Et combien de fois ai-je vu gamin, M. Focard, souvent accompagné d'Olivier Guichard et d'autres personnalités du RPF, proches du général, venir à Dakar et venir à la maison où mon père avait obligé les richissimes Libanais à contribuer à financer l'action politique du RPF. Et à l'époque, bon, M. Focard aidait des administrateurs de la France d'outre-mer qu'il connaissait, des gouverneurs qu'il connaissait, repartait sur la France l'argent qui permettait d'entretenir la vie du RPF et de permettre l'achat de cet immeuble du 5 rue de Solferino à travers une société qui s'appelle Lille Saint-Germain, dont étaient les dirigeants M. Pompidou, Jacques Focard et 3 ou 4 autres personnes.
Autre question, à gauche, comment donc se finançait-on alors?
Écoutez, la gauche, la droite, tous les partis politiques se nourrissaient de l'argent venu d'outre-mer, qu'on ne se raconte pas d'histoire. D'ailleurs, des proches du président Mitterrand l'ont écrit, son directeur de cabinet André Rousselet, Laurence Soudé, qui était sa conseillère, a raconté qu'elle réceptionnait des valises d'argent. Je n'invente rien. Allez voir taper Laurence Soudé, ses livres, elle en parle.
Ou même les fils de Mitterrand ont participé, pour certains.
Je ne porterai pas cette accusation. La seule chose que j'ai vécue, que j'ai raconté dans mes mémoires, il y a des faits que je n'oublierai jamais. C'était à la veille de l'élection présidentielle de 1988. Jacques Chirac était candidat, tout en étant le premier ministre du président Mitterrand, il était candidat. Monsieur Chirac m'avait dit, allez solliciter le président Omar Bongo, vous lui dites que la campagne présidentielle coûte cher. Et j'ai appelé le président Bongo, il m'a dit, viens tel jour à Libreville. Et il me donne rendez-vous un samedi après-midi. Samedi en fin d'après-midi. J'arrive, un des aides de camp du président Bongo, le capitaine Simba, vient me chercher à l'hôtel, m'installe dans la salle d'attente du président Bongo. Je suis assis dans la salle d'attente et je savais que j'allais réceptionner de l'argent pour M. Chirac, candidat à la présidentielle. J'étais assis et la porte s'ouvre, rentre qui? Roland Dumas, un des proches du président Mitterrand. Alors je me lève, je lui dis, mes respects, monsieur le ministre. Il me dit, ah, Bourgi, vous êtes là, alors que je ne l'avais jamais rencontré. Hein. Vous êtes là. Je pense que nous venons pour la même chose. Quand Roland Dumas vous parle, qu'est-ce que je suis à côté de Roland Dumas? Je n'ai rien dit, je me suis assis, il s'est assis en face de moi. Il était conduit par un autre aide de camp du président Bongo, le capitaine Anchama. Et je me suis assis, et à ce moment-là, la lampe verte s'allume, et le capitaine Simba me dit, c'est à vous, mais, monsieur Bourgi. Je dis au capitaine, Simba, moi je ne peux pas rentrer avant monsieur Dumas. Il a priorité, il me dit non, le président a dit que c'était vous. Je dis, moi, il m'est pas possible de rentrer avant Roland Dumas, par respect. Roland Dumas se lève, il me dit, je vous remercie, Bourgi. Et il rentre dans le bureau du président Bongo. Et la porte se referme, Simba me dit, ah, ça va chauffer pour vous, hein, grand frère, ça va chauffer pour vous, grand frère. Je dis, Simba, moi je ne peux pas rentrer avant le... Il me dit, ah, c'est les instructions du patron. Une demi-heure s'écoule, 45 minutes, et Roland Dumas sort, porteur de sac en toile de jute, je précise, en toile de jute. Et le capitaine Anchama prend le sac, et Roland Dumas a eu ce mot que je n'oublierai jamais, que Dieu l'ait en sa sainte garde. Il me dit, Bourgi, je vous en ai laissé. J'ai rien dit. J'ai dit, ok, où est-ce que j'en suis là? Et je suis rentré dans le bureau du président Bongo. C'est important cette anecdote.
Oui.
Et Bongo m'allume. Il me dit, mais tu n'avais pas, tu espèce de couillon abruti. Alors j'en ai pris. J'avais préparé deux sacs pour Jacques et un sac pour Mitterrand. Et voilà que l'autre s'en va avec ce que je devais remettre à Jacques. Et je lui dis, papa, s'il vous plaît, appelez M. Chirac. Vous lui dites qu'à Paris, j'arriverai moins chargé que prévu. C'est ce qu'il fit immédiatement. Je suis arrivé à Paris et j'ai pris une autre avanée de M. Chirac. Il m'a dit, vous n'auriez pas dû... Je lui ai dit, écoutez-moi, monsieur le maire, je fais ce que j'avais à faire. Maintenant, c'est fait.
En tout cas, Robert Bourgi, tout cela, je dirais, met un petit peu tout le monde à égalité sur ce qui s'est passé avant et avant, justement, ces lois dites de moralisation de la vie politique. Et je suis un petit peu étonné, puisque vous passez un petit peu dans les médias quand même, et vous avez la gentillesse de venir à Radio Courtoisie également, et je trouve que les journalistes ne rappellent pas qu'il y a quand même deux périodes. Il y a la période pendant laquelle il y avait une sorte de flou artistique, et puis il y a eu ces lois qui ont été votées de moralisation de la vie politique et de financement de la vie politique, et donc on aurait pu naturellement, en tant que citoyen parfaitement naïf et honnête, se dire que toutes ces pratiques, eh bien, devaient cesser. Et d'ailleurs, je poserai une question ensuite de savoir si elles ont toujours cessé.
Monsieur, j'ai appelé mes mémoires par le titre suivant. Ils savent que je sais tout. Les chefs d'État africains, tous les chefs d'État africains, finançaient tous les partis politiques.
Y compris après
tous
les lois
les partis politiques
de financement de la vie publique.
Jacques Chirac est arrivé au pouvoir en 1995. Je puis vous dire que pendant toute la période où j'étais actif sur ce front, pas simplement politique, ce caractère extrêmement sensible, cet aspect sensible des relations, je sais, j'ai vu, j'ai entendu les chefs d'État dire... On a envoyé ça rue de Solferino, on a envoyé ça à Jacques, on a envoyé ça, et tout le monde était financé.
Robert,
je ne me suis occupé, moi, de ceux que j'accompagnais chez Jacques Chirac et chez Dominique de Villepin.
Nous y viendrons. Robert Bourgi, tout le monde... Sauf peut-être un irréductible Gaulois nommé Nicolas Sarkozy qui a fait comprendre qu'il ne souhaitait pas de ces fonds secrets, malhonnêtes, enfin peu importe la définition. Donc, est-ce à dire que Nicolas Sarkozy a rompu avec cette tradition et est quelqu'un d'honnête, ou c'est quelqu'un qui s'est financé autrement? Pardonnez-moi la franchise des questions du journaliste.
Mais vous avez tout à fait raison de me le dire. Mais moi, je dirais, tant que j'aurai ma tête, ma mémoire, en septembre 2005, lorsqu'il y a eu une altercation entre Villepin et moi au pavillon de musique à Matignon, je suis allé chez le président Sarkozy, aidé en cela par une amie d'hier, d'aujourd'hui et de demain, qui s'appelle Patricia Balm. Je suis allé voir le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, qui m'a accueilli les bras ouverts dans son bureau. J'avais plus revu Nicolas Sarkozy depuis qu'il avait quitté Chirac pour être aux côtés de Balladur.
Depuis 95, depuis 94.
Voilà. 93 même. Depuis qu'il avait rejoint Balladur, Édouard Balladur. Il m'a dit, tu es le bienvenu ici. Et alors, tu as reçu un coup de pied au cul comme moi je l'ai reçu de la part des Chiraciens. Ils t'ont utilisé maintenant qu'ils n'ont plus besoin de toi. Ils t'ont foutu un coup de pied au cul. Mais sache une chose, Robert. Mon Robert, que ce bureau t'est ouvert. Je te présente ma femme, Cécilia. Je te présente Claude Guéant, mais j'ai une chose à te dire, Robert. Je sais tout ce que tu as fait pour le grand, c'est-à-dire pour Jacques Chirac. Je sais ce que ton père a fait pour la classe, pour le pouvoir gaulliste. Mais j'ai une chose à te dire. Je ne veux pas un sou venu des pays africains. Tout le monde a du mal à le croire, mais c'est la vérité. Pas un sou n'a transité par moi en direction du président Nicolas Sarkozy entre 2007 et 2012. Aujourd'hui, le président Sarkozy est confronté à des problèmes que je dirais très graves au niveau de la justice. Je laisse la justice faire son travail. Tout le monde doit s'incliner devant le droit qui est dit par les magistrats. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé en Libye. Moi, je puis vous dire avec certitude que je n'ai jamais accompagné un émissaire africain auprès de Jacques Chirac,
Nicolas Sarkozy,
entre 2007 et 2012. Que cela soit su et entendu.
Tout cela, Robert Bourgi, montre que la vie est parfois cocasse, puisque en effet, Nicolas Sarkozy est particulièrement poursuivi pour des affaires, différentes affaires, et notamment des affaires de financement que l'on doit quand même dire supposé, parce que la Cour elle-même a reconnu qu'il n'y avait pas de traces évidentes de ce financement, mais ce qu'on appelle l'intime conviction et le faisceau convergent de preuves, et que de l'autre côté, vous témoignez, et vous êtes je crois prêt à témoigner sous serment, que sur tous les autres pays d'Afrique, qui étaient d'une certaine façon, si je puis dire, de votre ressort, eh bien, non seulement il n'a rien touché, mais il a demandé à ne rien toucher. Et donc, on est là face à une sorte d'interrogation. Soit il est possible en France de faire des campagnes présidentielles d'envergure en étant parfaitement honnête, soit il faut d'une manière ou d'une autre un financement, et je laisserai évidemment les auditeurs méditer sur les deux seules options possibles.
Je ne dis que ce que je sais, monsieur. Vous m'avez invité, j'ai répondu à votre invitation, et ça n'est pas à 81 ans, même avant, que je vais commencer à raconter des histoires. Pas un sou n'a transité pays africains vers Nicolas Sarkozy, ministre ou président, par mon intermédiaire. Jamais un sou.
Et Robert Bourgi, vous qui êtes évidemment un grand...
Et je suis peiné de ce que vit...
Alors voilà, ça allait être ma question.
Oui.
Alors vous êtes peiné, on est tous peinés quand il arrive des malheurs à quelqu'un, bien évidemment, mais... si on prend un petit peu de distance, et c'est à la fois à l'acteur politique, à l'observateur politique et à l'avocat que je m'adresse, comment considérez-vous les différentes affaires judiciaires qui assaillent Nicolas Sarkozy? Est-ce que c'est l'ordre normal du cours de la justice et on doit s'en réjouir, ou est-ce que vous pensez qu'il y a une forme d'injustice ou d'acharnement? Quelle est votre analyse?
Je vais aller Je me suis posé la question avant de venir. Je suis avocat à la retraite maintenant. Tout citoyen, tout avocat, tout homme de loi, tout citoyen doit s'incliner devant la chose dite par les magistrats. On peut s'en émouvoir, être en colère ou pas. Là, les magistrats disent le droit. Je suis profondément peiné et je m'interroge. Je m'interroge concernant le président Sarkozy. Je me pose cette question. Ma pensée m'appartient. Ma réflexion m'appartient. Mon esprit m'appartient. À 81 ans, en attendant le rendez-vous avec l'Éternel, le plus tard possible, j'espère, Seigneur, je m'interroge. Comment est-ce que cet homme qui m'a dit en septembre 2005, pas un sou, et j'en suis sûr, à 1 milliard %, ça me concernait moi, comment cet homme a pu se voir reprocher des millions de dollars venus de Libye? Je ne nie pas que Brice Hortefeux et que Claude Guéant soient allés voir Senoussi. Ça n'est pas une erreur. Oui. C'est une faute majeure. Majeure, majeure. Et je m'interroge. Je peux m'interroger. Jamais le président Nicolas Sarkozy n'aurait dû accepter, s'il était au courant, qu'il rencontre Senoussi, le psychopathe en chef, vous voyez. Mais je m'interroge, je me dis, bon Dieu, comment est-ce que cet homme a pu... Et il faut que je raconte un fait que j'ai vécu. Nicolas Sarkozy avait été mis en garde à vue. Tout le monde en a souffert, ses partisans. Il passe 48 heures en garde à vue, souvenez-vous. Il sort de sa garde à vue. Je reçois un coup de fil de sa collaboratrice, maintenant à la retraite, l'extraordinaire Sylvie Burgel. Elle m'appelle, elle me dit, maître, je lui dis, oui, Sylvie. Elle me dit, le président voudrait vous voir. Je lui dis, mais enfin, Sylvie, il sort de sa garde à vue. Il vient de sortir de sa garde à vue, mais il a autre chose à faire que de me recevoir. Il me dit, il veut vous parler. Si les magistrats m'avaient interrogé, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas fait appel à moi, mais c'est ainsi, j'aurais répondu ce que je vais vous dire. Et dire à vos milliers d'auditeurs. Je vois un président Sarkozy, barbu, en chemise, je me rappelle. Il me dit des chocolats, comme il sait que je suis friand de chocolat, ce que je ne trouve pas chez vous. Donc je me sers, je prends dans la boîte. Il me dit non, je vais te servir. Il se lève, il me tend la boîte de chocolat. Je vois ça. Il me dit... Et je lui dis, Nicolas, tu aurais pu quand même éviter de m'appeler aujourd'hui. Tu sors d'une garde à vue. Il dit, non, j'ai tenu à te poser la question, Robert. Par toi qui connais ces méthodes-là, tu l'as fait pendant tant et tant d'années à accompagner les émissaires, pendant des décennies. Penses-tu que j'ai reçu de l'argent ? À moi, il me pose la question. Je le regarde droit dans les yeux. Je n'ai jamais raconté ce fait. Je le regarde droit dans les yeux. Je lui dis, tu sais Nicolas, tu connais mon langage, il est cache. Je dis des choses quelquefois dures, crues. Même à toi, parce que je ne t'ai jamais demandé un service, je ne t'ai jamais rien demandé, tu ne m'as jamais rien accordé, je n'en ai jamais eu besoin, mais il se trouve que je t'aime. Et que depuis toujours, j'ai une réelle affection pour toi. Il me dit, penses-tu que j'ai reçu de l'argent, Robert ? Je lui dis, je ne pense pas, Nicolas. Je ne pense pas, Nicolas, que tu aies reçu le moindre centime. Et le malheur a voulu, parce que je regarde les journaux, je lis, j'apprends. Vous avez eu tort, tes collaborateurs ont eu tort d'ouvrir la porte à un certain Ziad Taqiyeddine. Je suis Libanais. Je connais cet homme. Je sais ce qu'il vaut, cet homme. Je sais quelle est sa réputation. Si j'avais été informé, Nicolas, au nom de l'amitié, tu aurais dû m'en parler, mais tu ne l'as pas fait. On aurait pu éviter plein de choses. Je dis, moi, à mon sens, tu n'as jamais reçu un sou. Personnellement, tu n'as jamais reçu un sou. Et je te sais tellement prudent. Je te sais tellement prudent et soucieux de plein de choses. Combien de fois m'as-tu mis en garde? Attention, attention. Bon, et je dis non, tu n'as jamais reçu. Penses-tu qu'il y a eu de l'argent venu de Libye? Je lui dis, tu sais, Nicolas, je n'ai jamais rencontré Kadhafi, mais je le savais très généreux. J'ai eu à me trouver à Ouaga, il était invité du président Compaoré. Je l'ai retrouvé à Dakar, invité par le président Ouad. Je l'ai vu à Libreville, invité par le président Omar Bongo Ondimba. Et je savais qu'il distribuait de l'argent à tout le monde. Et je me souviens avoir dit moi-même à Omar Bongo, « Papa, je sais qu'à Kadhafi, moi je ne veux pas me trouver à une réception ou autre avec Kadhafi. » Et avec Kadhafi, il y avait toujours Senoussi, il y avait toujours Béchir Salé et compagnie. Et je lui dis, moi je ne veux pas me retrouver. Et il m'a dit, ah, pas de problème, fiston, comme il m'appelait. Bon, je le savais, très généreux. Je lui dis, toi, tu n'as pas touché d'argent. Mais dire qu'il n'en a pas distribué à ceux qui sont allés le voir, moi je dis non. Je ne dirai pas avec la plus grande certitude qu'il n'a pas distribué de l'argent. Je sais que Taqiyeddine en a pris. Il ne peut pas ne pas en prendre. Je sais que certaines des personnes citées dans cette affaire ont touché. Mais je n'ai aucune certitude. Mais pour ceux qui te concernent, Nicolas, si tu me poses la question, je te dis, tu n'as pas touché un sou. Et moi, par contre, ce qui m'interpelle, c'est ce 50 millions de dollars que la Libye aurait viré. Mais comment peux-tu virer 50 millions de dollars sans qu'il y ait une trace de cet envoi? Je lui ai dit, et ce jour-là d'ailleurs, je lui ai dit, je viens d'envoyer de l'argent à ma belle-mère, qui a 85 ans, une Ajaxienne, une bonne vieille Ajaxienne, une bonne belle-maman. Je viens d'envoyer 2000 euros et la banque m'a demandé dans quel but.
Oui, alors il y a d'autres filières, Robert Bourget, il y a d'autres filières.
Monsieur, 50 millions de dollars, 50 millions de dollars,
oui, attention, c'est compliqué, c'est compliqué.
Il faut un train, il faut un train. 6 millions de dollars, j'en ai vu des 6 millions de dollars, mais elles ne sont pas allées dans la poche de Sarkozy, ça j'en suis sûr. Elles sont allées dans la poche de Taqiyeddine, ça c'est sûr. Et quand il décrit Taqiyeddine, j'ai été un visiteur régulier du ministère de l'Intérieur, Seigneur. Il dit, j'ai vu le président Sarkozy et Claude Guéant au premier étage. Mais il n'y a pas au premier étage, c'est l'appartement du ministre. J'ai été un visiteur régulier. Combien de fois ai-je accompagné des journalistes chez le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy? On montait à l'étage avec les journalistes, il y a un étage, c'est son appartement. Il dit qu'il avait vu le président Sarkozy au premier étage, dans son bureau. Il n'y a pas de bureau, le président Sarkozy est au rez-de-chaussée. C'est plein de mensonges,
Taqiyeddine, monsieur. Taqiyeddine, il était stipendié par quelqu'un, par des...
Que Dieu l'ait en sa sainte garde, il a quitté cette terre. Il est entre les mains d'un autre juge, autrement plus sévère et généreux que nos magistrats.
En tout cas plus juste.
Et j'ai de la peine pour Nicolas Sarkozy, vraiment. J'ai entendu le réquisitoire, comme tous les Français. Cela me peine beaucoup parce que je sais, j'en suis convaincu qu'il n'a pas touché un sou.
Et Taqiédine, alors, il a été stipendié par une puissance étrangère, par des ennemis politiques de Nicolas Sarkozy.
Écoutez, moi, il est ce qu'il est. On est tributaire de ses gènes. Il est comme ça. Dieu l'a façonné comme ça. Il ne trouvait son plaisir que dans ce qu'il a fait. De pas droit. Mais je m'interroge, monsieur. Ça ne va pas faire plaisir à beaucoup de gens. Mais c'est mon langage. J'ai tellement de peine pour Nicolas Sarkozy. J'ai tellement de peine. Mais dites-moi, Zia Taqiédine, pourquoi il ne produit pas une photo de lui et de moi sur son bateau? De lui et de moi à Monaco? De lui et de moi dans les îles? Il y a d'autres personnes qui étaient ses amis avant le financement libyen. Il s'appelle comment, monsieur? Vous le savez bien. Il y a des photos qui ont circulé. Jean-François Copé. Brice Hortefeux. Ils le connaissaient avant. Ils auraient dû s'en apercevoir tout de suite que c'était un monsieur dangereux, qu'il ne fallait pas fréquenter. Et je leur reproche cette chose, c'est de l'avoir introduit dans ce qui pouvait concerner le président Sarkozy. D'abord Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur. Voilà. Et ils ont été entre les mains d'un fou furieux. Et Nicolas Sarkozy le paie cher, il le paie cash.
Vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie au Libre Journal du Sérapion. J'ai le très grand plaisir de recevoir Robert Bourgi, où nous parlons eh bien, de tout ce qui fait l'actualité de la France, l'actualité de l'Afrique, l'actualité politique. Et nous allons écouter un rapide bobino important pour la vie de notre radio.
Vous avez fait le choix de nous rester fidèles. Vous avez fait le choix d'écouter Radio Courtoisie. Vous avez fait le choix de nous soutenir parce que vous êtes libre. Parce que pour vous, tout comme Radio Courtoisie, la liberté de penser, la liberté de parler, la liberté de chercher sont primordiales pour vous. Radio Courtoisie vous offre désormais le choix d'écouter nos podcasts partout et tout le temps sur les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. Gratuitement, pour que toujours cette liberté qui nous unit, qui nous est chère, demeure.
Robert Bourgi, nous avons compris que vous aimez bien Nicolas Sarkozy. Et aujourd'hui, vous faites à nouveau l'actualité politique, notamment concernant eh bien, cadeaux qui auraient été donnés à Dominique de Villepin. Et certains s'interrogent en disant, mais est-ce que ce n'est pas justement cette amitié pour Nicolas Sarkozy qui vous pousse, non pas forcément à vouloir absolument le scalp de Dominique de Villepin, mais en tout cas freiner peut-être un petit peu le panache de cet homme qui se verrait bien le primus inter pares?
Alors je vais dire ce que j'ai toujours dit. Nicolas Sarkozy est mon ami, je l'affectionne. Je l'aime. Il m'est permis d'aimer quelqu'un. J'ai adoré Chirac et pourtant j'ai dit certaines choses sur lui. J'ai aimé Dominique de Villepin et pourtant j'ai dit certaines choses sur lui. J'ai aimé François Fillon et pourtant j'ai dit certaines choses sur lui. Mais j'ai une chose à vous dire. Nicolas Sarkozy n'y est pour rien dans l'anathème que je livre à Villepin, que je jette à Villepin depuis quelques jours. Il n'y est pour rien. Il ne savait même pas qu'il devait y avoir une émission, un documentaire de complément d'enquête. Il n'était au courant de rien. Personne de son entourage n'était au courant. Nicolas Sarkozy n'y est pour rien. Pourquoi est-ce que j'ai voulu livrer cet anathème contre Villepin? C'est un homme que j'ai fréquenté pendant 10 ans, plusieurs fois par semaine. Et d'ailleurs, dans complément d'enquête, je sors une mallette, un sac rouge, et je déverse. Ce sac n'a pas déversé. Il a vomi des dizaines et des dizaines et des dizaines de carnets Hermès, bien entendu. Et là, j'en ai quelques-uns ici. Et qui rendent compte de tout ce que j'ai fait depuis 50 ans. Ça n'est qu'une partie. Il y a d'autres sacs ailleurs. Bon. Et pendant 10 ans. Et quand le président Sarkozy a été incarcéré, j'étais peiné, il est évident, comme des millions de Français. Et j'ai vu ce bel homme, parce qu'il est bel homme, belle chevelure, dire que l'incarcération de Nicolas Sarkozy ne l'émeuvait pas, c'est injusticiable comme un autre. Je ne l'ai pas supporté, monsieur. Deuxièmement, depuis 2 ans, il copine à tout va avec ceux qui, il y a 2 ans, lui étaient profondément hostiles. Lui qui se dit, pas simplement gaulliste, mais qui se dit comme moi, gaulo-gaulien, n'a rien à voir avec M. Mélenchon. Excusez-moi. C'est une dérive totale qu'il livre, à laquelle il se livre depuis 2 ans par démagogie. Parce qu'il se sait oublié
des Français.
De l'opinion publique de droite comme des Français. Il n'existe pas. Et d'ailleurs, cette émission de complément d'enquête a ouvert les yeux des Français sur beaucoup d'activités de Dominique de Villepin, autres que les statuettes. Et j'ai voulu aussi montrer, aux Français que ces leçons de moralité, de probité, la gloriole de la France, la gloriole de Dominique de Villepin, tout cela était bidon. Et j'ai décidé de livrer l'affaire des statuettes. Des statuettes qu'il a reçues en cadeau. Il dit que c'est Robert Bourgis qui lui a offert ça pour ses anniversaires. Offrir 2 bustes de l'empereur pour l'anniversaire de Dominique de Villepin, je n'en ai pas les moyens. Deuxièmement, quand il dit qu'il ne connaissait pas les heureux donateurs, il dit que je suis un fabuleux conteur. Dominique Galouzo de Villepin, je m'adresse à vous. Si je suis un fabuleux conteur, vous êtes un fief et menteur. Vous faites honte au Dominique de Villepin que j'ai tant aimé, que j'ai tant respecté, que je prenais plaisir à écouter à l'Élysée, au Quai d'Orsay, à Beauvau, à Matignon. Comment pouvez-vous dire que moi, je suis un conteur? Vous n'avez pas le droit de mentir aux Français. Et quand vous dites, Dominique Galouzo de Villepin, qu'à partir de 2005, Chirac et vous avez signifié, ma fin de mission auprès de vous, j'ai ici, là, Dominique de Villepin, la preuve que de 2005 à 2007, je vous ai vu aussi souvent que je vous voyais avant. Non seulement je vous voyais en tête à tête, comme d'habitude, mais je vous voyais accompagné d'émissaires africains. Tout ça est écrit ici, Dominique. Mais il faut laisser le temps au temps. L'heure viendra pour autre chose que les statuettes.
Robert Bourgis, vous faites un petit peu figure de tonton flingueur de la droite française, puisque après Fillon, voilà maintenant Villepin, mais je veux laisser ça à d'autres commentateurs. Là aussi, je trouve qu'il y a une forme de paradoxe, parce que, permettez-moi de prendre un tout petit peu, sinon la défense, en tout cas, de remettre les choses en perspective. Bon, si j'ai bien compris, Dominique de Villepin a reçu d'émissaires ou de gens intéressés ou d'hommes d'État, deux très beaux bronzes qui lui rappelaient sa passion de l'Empire, soit. Je ne dis pas que c'est bien ou mal, mon propos n'est pas celui-là. Mais à la faveur de cette affaire, je constate que dans le cadre de son activité quotidienne, de son activité professionnelle, Dominique de Villepin a déployé un certain nombre de talents, j'allais dire, au service, notamment, par exemple, de la Chine, si j'ai bien compris.
Oui, oui, absolument.
Et, encore une fois, nous sommes là, on est bien d'accord, Robert Bourgi, dans le cadre du monde politique. Et je pense que dans le monde politique, comme disait Machiavel, la morale des princes n'est pas celle des hommes. Ça ne veut pas dire qu'ils soient dégagés de toute morale, ça veut dire que les critères sont un petit peu différents. Et le critère il est moins grave de s'être enrichi si on a travaillé pour le bien commun que d'être une sorte de Savonarole qui a tué plein d'innocents sans jamais avoir volé un seul centime. Et donc ce que je veux dire, c'est que là, une fois de plus, est-ce que l'on ne se trompe pas, encore une fois, nouveau paradoxe de cible, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt interroger Dominique de Villepin sur ce qu'il a fait quand il était au pouvoir, de bien ou de moins bien, sur ce qu'il a fait en termes d'activité professionnelle en mettant à son service et au service de ses intérêts financiers, eh bien, l'entregent qu'il a pu avoir lorsqu'il était aux affaires, et demain, en effet, comme vous venez de le faire, le projet politique qu'il a pour la France. Mais est-ce que, en ressassant cette histoire de statut, on ne passe pas à côté de l'enjeu majeur, qui est un enjeu politique, qui est de savoir qui est Monsieur de Villepin, quelles sont ses idées, pour qui travaille-t-il, qui souhaite-t-il défendre, la France, l'Europe, l'Occident ou la Chine, les États-Unis, la Russie, et quel est son projet pour la France? Est-ce que ce n'est pas ça ce qui est important quand même pour la France et les Français?
Monsieur, le Dominique de Villepin d'il y a 2 ans aurait eu droit de grâce à mes yeux. C'était un homme qui aimait son pays, qui était au service de son pays. Mais je ne supporte pas, monsieur. Il faut avoir dans la vie d'un homme politique des convictions et se tenir à ces convictions.
C'est mon
vous
propos.
N'allez pas me dire, monsieur, que le courant politique auquel il est naturellement, auquel il appartient naturellement, est celui de monsieur Mélenchon. Vous ne pouvez pas me dire cela. Le discours qu'il tient aujourd'hui et depuis 2 ans n'est pas celui d'un homme de droite, voyez, ça sent la démagogie, ça pue la démagogie. Cela ne veut pas dire que j'ai du mépris pour M. Mélenchon. Je dis
oui, c'est
haut
pas
et
le
fort,
même bord, c'est juste
non,
pas le même
je
bord.
Dis haut et fort que M. Mélenchon est certainement le plus cultivé de nos hommes politiques. C'est un homme bon, un brio extraordinaire, une personnalité extraordinaire, un charisme extraordinaire. Mais ça n'est pas mon bord politique. Et ça n'est pas le bord politique de Dominique Galeuzo de Villepin. Si son père était encore de ce monde, son noble père, un homme pour lequel j'avais énormément de respect, son propre père, de là où il est, il doit le désapprouver. C'est pas possible que cet homme puisse un jour aspirer à diriger la France.
Mais Robert Bourgi,
l'avenir nous le dira de toute façon.
Oui, l'avenir nous le dira. Et je crois que, heureusement ou malheureusement, les chances quand même de M. de Villepin dans la course présidentielle sont assez limitées. Mais est-ce que justement, et c'est là aussi le travail du journaliste, est-ce qu'il ne faut pas revisiter, revoir l'ensemble du parcours de M. de Villepin à l'aune et à la lumière de ses choix présents? Parce que non seulement, en effet, j'ai du mal à comprendre cette alliance un peu honteuse qui essayerait de faire du chevènementisme au petit pied, mais surtout, je m'inquiète de ce que ce ne soit pas peut-être la nature profonde de Dominique de Villepin, qui a toujours été finalement un homme de gauche, plus même que de centre-gauche, de gauche, et que, quels que soient les envolées lyriques et le rattachement de façade au gaullisme, il n'a en fait jamais été quelqu'un de droite, il n'a jamais fait quelque chose qui soit, je dirais, de droite, il n'a jamais promu véritablement d'idées, de lois, de droite, et c'est peut-être comme ça qu'il faudrait relire l'ensemble de son parcours, parce que la vérité d'un homme, eh bien, elle s'affine chaque jour, comme l'or dans le creuset, elle s'affine chaque jour, et elle se révèle un peu plus à mesure que le temps passe.
Moi, j'ai le seul, cette expression, le seul fait d'armes glorieux que les Français retiennent de Villepin, c'est son discours à l'ONU.
À l'ONU, bien évidemment.
Mais moi, je voudrais rétablir une vérité. Sa voix, belle voix, a récité un discours écrit par Jacques Chirac. C'est la pensée de Jacques Chirac qu'il n'a fait qu'exprimer, au mot à mot. Je vais vous dire pourquoi. Le président Bongo venait à Paris, quelque temps après. Et j'étais à Biarritz, en famille, lorsqu'il a prononcé le discours aux Nations Unies. Et je me rappelle bien qu'il m'avait appelé, il m'a dit « Comment avez-vous trouvé mon discours, camarade ?» Il m'a toujours appelé camarade, moi par son prénom. Et quand j'allais le voir à l'Élysée, j'étais Monsieur Chambertin, parce qu'il aimait le vin de l'empereur. J'étais Chambertin.
Le Fixin aussi était le vin de l'empereur.
Chambertin. Il m'appelait Chambertin. Si on reprend les agendas de l'Élysée, j'espère qu'il les a restitués.
Ou Robert Bourgis, ou les vôtres, que je vois à votre droite.
Oui,
vous pouvez les montrer à l'écran.
Oui, mais où est-ce qu'il est, l'écran ?
La caméra est ici.
Elle est où ?
Là.
Vous voyez, là, il y a 2005. Là, il y a 2006. Et là, il y a 2007. Quatre trimestres.
Robert Bourgis, on peut en ouvrir un au hasard ?
Allez, au hasard, on ouvre 2006.
Allez, on ouvre.
Dominique de Villepin dit qu'en 2005, ils m'avaient signifié le congé, je cherchais le terme, lui et Chirac. J'ouvre là, 2006. Vous ne lisez que Villepin, parce que... au hasard, et vous verrez combien de fois apparaît le nom de Villepin. Et même, je vais vous faciliter la chose.
Alors, nous sommes vraiment en direct. Alors, je vois certains noms, mais je n'ai pas le droit de les lire. Et je ne les lis pas. Mais en effet, je pourrais témoigner pour la postérité que j'ai vu vos carnets. Alors, je n'ai pas encore vu Villepin pour le moment. Hein. La vérité m'oblige à dire que pour le moment, je n'ai pas encore vu...
Il y a quatre trimestres. Là, vous avez le...
Oui, je fais page à page.
Je vais vous aider.
Ah.
Je vais vous aider. Allez... au 26 janvier, 19h45. Alors, 26 janvier, 19h45, 2005.
Alors là, je suis sur 2006.
Bon, alors 2006, on va aller à 2006. C'est encore mieux. 2006. Allez, au mardi 7 février, 19h. Que lisez-vous ?
Alors, l'agenda commence en septembre.
Alors, on va vous donner le vrai. C'est quoi là ?
2006. Là, c'est 2006 à partir de septembre.
Février.
Écoutez, de toute façon, je pense que la démonstration est suffisante pour les auditeurs qui ne sont pas des magistrats instructeurs et qui auront compris, et je peux en témoigner, qu'il y a la même écriture qui se succède tout au long de vos carnets.
Voilà, écoutez, nous sommes en 2006, Qu'est-ce que vous lisez ?
Mardi 7 février, 19h, Villepin à Matignon. 9 février, 13h, Villepin, déjeuner au Meurice.
Chez le président Bongo, je suis présent. Mercredi 1er mars, 13h45.
Villepin reçoit le président Sassou Nguesso, Congo-Brazza, à déjeuner.
Je viens
au dessert, convaincre.
Villepin de se ranger derrière Sarkozy. Dimanche 5 mars, 20h, avec Jean-Dominique Okemba à Matignon. Convaincre Villepin de rejoindre Nicolas Sarkozy.
Bon, ça n'a pas été tout à fait...
Jean-Dominique Okemba, conseiller spécial de Sassou Nguesso.
Ça n'a pas été totalement couronné de succès.
Non, mais je note tout, voyez. Non, il dit qu'on m'a congédié en 2005. Nous sommes toujours en 2006. Prenez-la et lisez, là où vous voyez Villepin.
Ah ben on le voit à de nombreuses reprises, on voit Sarkozy
oui,
et Villepin... Écoutez, je pense que au-delà de toutes les interviews que vous avez pu faire, les Français sont assez convaincus, je pense, de votre bonne foi. Moi, il y a aussi quelque chose qui m'intéresse,
c'est allons-y,
la
j'adore.
Politique, la grande politique, la vraie politique et notamment les relations internationales. Nous sortons d'un sommet africain qui s'appelait Africa Forward, qui pourrait se traduire vers l'Afrique vers le futur. Où notre président Emmanuel Macron est allé en Égypte, au Kenya, en Éthiopie, et tout cela préfigure, paraît-il, en novembre, un autre déplacement qui aurait lieu au Nigeria, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Il y a des liens complexes mais forts entre la France et l'ensemble de l'Afrique, avec une histoire variée que vous connaissez mille fois mieux que tout le monde, Robert Bourgi. Moi, j'aimerais, dans l'intérêt de la France, des Français et de l'Afrique et des Africains, savoir qu'est-ce qu'il serait bon que nous fassions, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que nos deux pays, nos deux continents se développent harmonieusement. Il me semble que c'est là l'essence et la noblesse du politique.
J'ai dit moi-même que la France-Afrique devait mourir. J'ai dit moi-même qu'il en ait été un acteur majeur et un témoin majeur. La France-Afrique avait de bons côtés, mais elle avait un côté obscur. Les coups d'État, mettre en place les chefs d'État, monnayables et corvéables à merci. On les mettait en place, tout cela à la suite du système mis en place par le général de Gaulle, et actionné par Jacques Foccart, on choisissait les chefs d'État qui permettaient à la France d'avoir la main mise sur toutes les matières premières de ces pays. Et le côté obscur, c'est que on étouffait les oppositions, on aidait à les mettre en prison, et en 2011, comme vous le savez, j'ai dénoncé tout cela. Venant de moi, ça avait de la valeur, mais ça n'a pas empêché la presse médiatique de me tomber dessus. Mais je l'ai dénoncé. La France-Afrique se doit de mourir, et il faut qu'elle meure. Mais je suis contre tout ce qui a été dit sous le président Hollande et sous le président Macron. Le président Macron a zéro en matière de politique africaine. Il avait dit que ça devait prendre fin, mais il a copiné avec tous les chefs d'État qu'il voulait combattre, qu'il avait voué aux gémonies. Il a copiné avec Sassou Nguesso, il a copiné avec les Tchadiens, il a copiné avec l'Équato-Guinéen, il a copiné avec la Guinée-Bissau. Ça a continué. Il a tout faux. Et quand il dit qu'il ne faut plus le précaré africain, eh ben non. Monsieur le Président, vous avez tort de le dire. Parce que nous avions les moyens d'effacer les erreurs du passé, de corriger notre politique africaine en ayant avec les les autorités politiques africaines un langage vrai et sûr. On n'organise pas un sommet franco-africain avec simplement quelques intellectuels à Montpellier. Ça a été une erreur, sans aucun chef d'État. On fait pas un sommet France-Afrique en allant dans un pays anglophone comme le Kenya. Je dis non. Non. Monsieur le Président, vous aviez les moyens. J'ai voté pour vous en 2017. J'ai voté pour vous en 2022. Bien que vous ayez eu à mon endroit un comportement que je dis pas, que je dirais peu élégant en m'ôtant la Légion d'honneur pendant 5 ans parce que j'avais dit que j'allais niquer Fillon pour la présidentielle. C'est un langage sportif. Vous êtes un sportif, monsieur le président. On se nique le genou, on se nique l'épaule. Combien de fois je me suis niqué la cheville parce que je jouais au rugby, je jouais au tennis, je jouais au volleyball. Mais enfin, peu importe. Nous avions les moyens. Par exemple, le Mali, l'AES, Mali, Burkina Faso et Niger. Vous avez mal réglé le problème avec le Niger, lorsque le président Bazoum a été mis aux arrêts. Vous n'aviez pas à maintenir de force un ambassadeur dont le président demandait le départ. Vous deviez prendre votre avion, monsieur le président. Votre avion, ce qu'aurait fait Nicolas Sarkozy, ce qu'aurait fait Jacques Chirac. Vous preniez votre avion et vous alliez à Niamey, dialoguer directement avec le président, avec le chef de la junte. C'est comme ça qu'on règle les problèmes. C'est comme dans un couple. Dans le cœur de tous les Africains, monsieur le président, il y a cette histoire en commun, il y a cette participation des soldats africains pour la libération de notre pays en 1914-18, la participation des tirailleurs sénégalais en 1939-45. Il y a quelque chose de très fort dans le cœur de tous les Africains, même dans le cœur de la jeunesse africaine. Nous parlons la même langue. Nous parlons, mais il fallait complètement rénover la politique africaine de la France. Pas jeter l'anathème sur la France-Afrique, la France-Afrique, la France-Afrique. Aujourd'hui, en évitant de dialoguer, en évitant de parler franc, les Africains, bien qu'on leur parle franchement, droit dans les yeux, ils aiment ce langage de vérité. On a en commun une histoire qui s'étale sur des siècles. Le cœur, dans chaque cœur africain, il y a une part de France. Il fallait parler avec eux. On aurait évité de sortir du Niger. On aurait évité l'opprobre malien. On aurait pu éviter d'être jeté du Burkina Faso. Non, il nous fallait parler avec eux, dialoguer avec eux. Et je suis certain, monsieur le président, je suis certain que si cela avait été fait, les Turcs ne seraient pas présents comme ils le sont aujourd'hui. Les Russes ne le seraient pas aujourd'hui. Les Américains ne le seraient pas aujourd'hui. Et tant d'autres, les Chinois aussi. On a en commun cette langue. Mais faire un sommet au Kenya, moi je n'ai rien contre le Kenya. Mais c'est un pays anglophone, c'est pas un pays francophone. Il faut dialoguer avec les Africains. Dire voilà. Pendant tant et tant d'années, nous avons commis des erreurs. Oui, des erreurs ont été commises. Oui, des fautes ont été commises. Mais on répare face à face. On va pas jeter l'anathème. Moi, monsieur le président, monsieur Chirac n'est plus là pour le dire. Mais demandez au président Sarkozy, mais les relations sont rompues. Combien de fois Nicolas Sarkozy m'a-t-il envoyé en Afrique parce qu'il avait entendu dire qu'il y avait tel appel d'offres, tel marché, tel gisement pétrolier, il fallait plaider la cause des sociétés françaises. Je prenais mon avion, monsieur le président, à mes frais, bien entendu, je ne dois rien à la France. Et j'allais discuter avec Omar Bongo, avec Sassou Nguesso, avec Laurent Gbagbo ou le président Bédié. Et on obtenait satisfaction, monsieur le président. Vous êtes dans l'erreur. Le précaré africain existe. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de précaré africain. En le disant, vous cédez. Vous cédez la place aux autres. Il faut maintenir coûte que coûte notre place en Afrique. Et on en a les moyens.
Robert Bourgi, pourtant, le président de la République, Emmanuel Macron, est parti à ce sommet avec M. Saada de CGMA-CGM, qui opère certains ports, notamment en Afrique de l'Ouest. Donc, on peut imaginer que, au-delà des rodomontades et des propos, il y a bien, je l'espère, au sein du gouvernement français, notamment de la présidence de la République, la compréhension de ces enjeux, ou vous êtes plus pessimiste ?
J'ai grande confiance, une énorme confiance en Rodolphe Saadé. J'ai bien connu son père. C'était un grand monsieur, un très grand monsieur, un génie, il n'y a pas d'autre terme. Et j'ai connu Rodolphe Saadé pas très bien, mais il était bien plus jeune à l'époque de M. Chirac. Son père lui a transmis le sens des affaires. Lui réussira, j'en suis sûr. Il réussira là où Vincent Bolloré a commis des erreurs. Lui se comportera avec le cœur sur la main, donnant-donnant, gagnant-gagnant, tandis que Vincent Bolloré faisait tout à fait autre chose. Mais Vincent Bolloré, c'est Vincent Bolloré, mais j'ai plus confiance en Rodolphe Saadé. Mais à mon âge, j'ai pas envie de chanter ma gloire. Dommage que le moule qu'a fabriqué Robert Bourgi soit cassé. Dommage que le moule... Si je pouvais remonter l'horloge du temps, je vous assure, monsieur, si je pouvais remonter l'horloge du temps, la France serait toujours présente, parce que j'aurais obligé mes supérieurs à dire ce qu'il fallait dire, à leur dire comment il fallait parler aux Africains, comment il fallait évoluer en Afrique, et tenir compte de l'opinion publique des jeunes. Des jeunes, on les a oubliés du temps de la France-Afrique, c'est le côté obscur. Mais que voulez-vous, j'ai appartenu à un système. Comment vouliez-vous que je dise à M. Focard, vous êtes dans l'erreur ? Comment vouliez-vous que je dise à M. Chirac, Monsieur le Président, vous êtes dans l'erreur ? Comment voulez-vous ? Mais je le disais à Nicolas Sarkozy.
Naturellement.
Je le disais à Nicolas Sarkozy.
Les gens intelligents écoutent ?
Oui.
Les gens intelligents écoutent ?
Vous savez, je vais vous faire une confidence. Dernièrement, j'ai été l'invité d'un chef d'État dont je tairai le nom, que je ne connaissais pas. Je dis bien que je ne connaissais pas. Bien sûr, je connais l'histoire de l'Afrique. Mais je ne le connaissais pas. Il m'a fait comprendre qu'il souhaitait me rencontrer. Je suis allé chez lui. Un homme, comment vous dire, fort caractère, une autorité naturelle, un physique impressionnant. Et je suis arrivé chez lui, il était 22h40, et il avait à côté de lui un fidèle d'entre les fidèles, un homme à 4 étoiles, et à côté de lui, un de mes amis, un homme des médias, que je vous ferai rencontrer, monsieur. Très intéressant à rencontrer. Et je me suis assis en face de lui, il était en jogging, et il s'est mis à me regarder. C'est impressionnant. Je savais qu'un homme d'autorité, attention. Et il me regardait 30 secondes, une minute. Je lui dis, monsieur le président, vous m'avez invité à venir vous voir, mais vous me regardez. Et il m'a regardé et il m'a dit, je n'arrive pas à croire que j'ai en face de moi Robert Bourgi. Vous êtes la mémoire de l'Afrique. Vous êtes la bibliothèque de l'Afrique. Et vous êtes bien là. Je lui dis, je suis là, monsieur le président, je suis en face de vous. Il m'a dit, il y a quelque chose d'autre qui m'interpelle. Je lui dis, quoi ? Et il me dit, là je vais être obligé de donner son nom, on va le deviner. Il me dit, je sais que vous avez été l'ami pendant des années de Sékou Touré. C'est le général Doumbouya, président de la République de Guinée, qui a renversé le sinistre Alpha Condé. Le président corrompu et dictatorial. Et il me dit, vous avez été l'ami de Sékou Touré. Et j'arrive pas à le croire que vous avez été son ami, que vous avez déjeuné avec lui, que vous avez dîné avec lui, que vous êtes même allé dans son village natal à Farana. Et je suis impressionné. Et on a passé un long moment. Et vous savez, c'est un homme qui est, comment vous dire, qui est actuellement vilipendé, truc, on l'accuse de tous les maux. Et c'est un bienfait pour son pays. Parce qu'il a tout à fait compris ce que je lui ai dit. Ce que je lui ai dit, vous avez en face de vous le dernier des Mohicans de la France-Afrique, monsieur le Président. Mais je vais vous tenir un langage de vérité. Et je lui ai tenu un langage de vérité. Et je sais qu'il m'écoutera qu'il va s'améliorer. Je lui ai ouvert les yeux sur certaines des pratiques que l'on stipendie à l'extérieur, mais qui devrait abandonner. Mais c'était un bienfait pour son pays. Et ce coup d'État était le bienvenu dans son pays. Moi, vous savez, je suis un endommagé maintenant. Mais s'il y avait eu simplement Jacques Chirac à la place d'Emmanuel Macron, imaginons, nous sommes dans le virtuel, dans l'imaginaire. Simplement Jacques Chirac, aujourd'hui, avec la situation telle qu'elle prévaut aujourd'hui dans le monde, on n'aurait pas perdu l'Afrique. On serait présent, mais on aurait amélioré les choses. Et on se serait appuyé sur la jeunesse africaine, qu'on a oublié, qu'on a négligé, qu'on n'a pas associé au pouvoir. Et on a continué à maintenir des potentats. Il n'y a pas d'autre terme. Des nonagénaires qui en sont à leur 7e, 8e, 9e mandat. On les maintenait. C'était une faute majeure. Et seul exemple de démocratie que j'ai connu, puisque j'étais son ami, son frère, son conseiller politique et personnel, c'est Macky Sall. Macky Sall s'en est allé. Il aurait pu rester, mais il a préféré s'en aller. Ça a été démocratique. Aujourd'hui, il y a un jeune président de valeur, Diomaye Faye au Sénégal, un jeune premier ministre de valeur au Sénégal, Ousmane Sonko, bien qu'il ne soit pas... que ce ne soit pas le grand amour entre eux actuellement, mais ça va se dissiper, ce petit divorce entre eux. Voilà, réparable, monsieur. Tout est réparable.
Vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie, au Libre Journal d'Uxérapion. J'ai le plaisir de recevoir Robert Bourgi et nous nous entretenons de l'actualité politique, de la France, de l'Afrique et de ce qu'il conviendrait de faire. La France a été, on peut le dire, chassée du Mali et les observateurs, même les plus critiques concernant la France, se sont quand même bien aperçus que ceux qui ont pris notre place n'étaient pas beaucoup plus doués. Est-ce que pour vous, c'est un petit signe d'espoir que justement, eh bien, la France recouvre la place qui est, vous l'avez dit, a priori naturellement la sienne dans l'intérêt de la France et de l'Afrique?
Je suis confiant. Je suis confiant que si la France retenait certaines leçons, réparait certaines erreurs du passé, il y a entre les Africains et nous, il y a l'histoire commune, les souffrances communes. On peut réparer. C'est comme dans un couple, monsieur. C'est comme dans un couple qui se retrouve. On divorce, mais ensuite on sait ce que l'on a perdu, mais on ne sait pas ce que l'on a trouvé. Bon, que voulez-vous qu'un Africain puisse dire à un Chinois? Que voulez-vous qu'un Africain puisse dire à un Russe? Que voulez-vous qu'un Africain puisse dire à un Turc? Que voulez-vous qu'un Africain puisse dire à un Portugais, le Brésil? Non. On a en commun cette langue magnifique qu'est le français. On a en commun cette histoire. Et, par exemple, je vais vous confier une chose. Il y a des erreurs qui ont été commises. Une erreur. J'avais essayé de réparer cela, mais je n'ai pas pu le faire. Lorsque le président Senghor, l'immense président Senghor est mort. Il n'y a pas eu à Dakar, à son enterrement, une personnalité de premier ordre. C'était la place de Jacques Chirac d'y être. C'était la place de Dominique Galouzeau de Villepin d'y être. Le chantre de la langue française, personne n'a accompagné le président Senghor.
C'est une faute absolue.
C'est pas une erreur, c'est une faute. C'est une faute majeure. Et les Africains le disent. Comme j'ai dit à Sarkozy, ton discours de Dakar, C'est une faute que tu vas traîner toute ta vie.
Et pourtant, c'était un discours de vérité.
Non, non, ça n'est pas un discours de vérité. Quand vous dites que l'Afrique n'est pas assez rentrée dans l'histoire, dites-moi, monsieur, il y a eu des empires en Afrique, des empires réels, réels. Quand la France, c'était le Moyen-Âge, en Afrique, c'était un peu mieux. Voyez ? Non, non, non. Le discours de Sarkozy était faux. Écrit par Henri Guénaud, je me demande ce que Henri Guénaud pouvait connaître à l'histoire de l'Afrique. Non, mais c'est une histoire de fou. Et d'ailleurs, quand il a quitté Dakar, ayant prononcé ce discours horrible, il est allé à Libreville, où je l'attendais, moi. Il m'avait dit, ne viens pas à Dakar, va directement à Libreville. Bon, enfin, décision du président. Et je me suis retrouvé avec le président Bongo en tête à tête. Il n'y a jamais eu de tête à tête entre les chefs d'État africains et les chefs d'État français. J'étais toujours présent. Une fois que les caméras étaient parties, les conseillers partis, les ambassadeurs partis, Bourgie apparaissait. Bon, Bongo lui a dit, Nicolas, mais qu'est-ce qui t'a pris à Dakar hier? Mais tu as bu? Tu avais bu? Mais Robert m'a dit que tu ne buvais pas d'alcool. Je lui ai dit, effectivement, il ne boit pas. Mais qu'est-ce qui t'a pris de raconter des histoires là? Ça, c'est des conneries, Nicolas, que tu as racontées. Mais je me demande même comment Abdoulaye Wade n'a pas pu réagir lorsque tu as prononcé ce discours. Il lui a dit, mais effectivement, j'ai lu le discours dans la voiture qui me menait à l'université. Dit-il. Il lui a dit, mais qui a écrit ce discours? Il a dit, Henri Guénaud. Il dit, mais qui est Henri Guénaud? Qui est-il? Tu avais Robert à côté de toi, qui est dakarois, sénégalais, qui parle la langue, et tu vas faire écrire le discours par quelqu'un d'autre. Voilà.
Robert Bourgie, il nous reste 2 minutes pour clore cet entretien. Alors justement, l'élection présidentielle en France s'approche. Comment voyez-vous justement la situation en quelques mots, puisqu'il nous reste que 2-3 minutes, et quel président, enfin quel présidentiable serait selon vous le plus à même justement de comprendre l'Afrique et de faire quelque chose pour les liens entre la France et l'Afrique?
Je vais vous répondre très franchement. Moi, je vois trois personnes se détacher dans cette élection présidentielle. Je souhaiterais que la droite puisse se retrouver, les Républicains, puisse se retrouver et trouver un candidat unique. Et je ne vois personne d'autre que Bruno Retailleau. Moi. Qu'on ne me parle pas de Laurent Wauquiez, qu'on ne me parle pas de Jean-François Copé, qu'on ne me parle pas de David Lisnard. Et à gauche, je vois deux hommes. Je vois le retour de François Hollande. Je vois le retour de François Hollande et l'inévitable Jean-Luc Mélenchon. Mais si vous me donnez à choisir entre Mélenchon et Hollande, je souhaiterais Mélenchon. Et un affrontement entre Mélenchon et Retailleau. Parce que je sais que la droite l'emportera. Retailleau est un... Il montrera ce dont il est capable. Il fera ce que Ciotti a fait à Nice. Ils sont aussi redoutables l'un que l'autre.
Robert Bourgie, merci beaucoup. Merci pour cet entretien. J'espère donc que les auditeurs auront apprécié et qu'ils pourront méditer sur, en effet, l'histoire de France, l'histoire de la France avec l'Afrique, et puis aussi de ce qu'il conviendrait de faire pour que la France et l'Afrique recouvrent ces liens privilégiés qui sont, je crois, dans l'intérêt des deux, de l'Afrique, des Africains et de la France et des Français. Permettez-moi simplement de conclure en rappelant que Radio Courtoisie est la radio du pays réel et de la francophonie.
Oui.
Et donc, je pense que, évidemment, nous avons un attachement tout particulier pour tous ces pays d'Afrique qui parlent notre langue, qui chérissent notre langue et qui également la font vivre. Et qui font que la France a cette vocation universelle, notamment au travers de sa langue. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous laisser un mot de conclusion.
Si je n'en étais pas conscient, monsieur, je ne serais pas venu avec le réel plaisir de retrouver Radio Courtoisie et de vous retrouver.
Merci beaucoup, merci Robert Bourgi. Un grand merci à la technique, amis auditeurs, à dans 4 semaines.
Vous venez d'entendre le Libre Journal d'Hugues Sérapion, émission préenregistrée le 14 mai 2026, diffusée sur Radio Courtoisie samedi 23 mai, de midi à 13h30 et réalisée par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce Libre Journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie 61, boulevard Murat, 75 016 Paris.